La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de la saison de la Semaine de l'Art, mais nous reprendrons bien sûr en septembre, avec aujourd'hui Jean-Pierre Changeux, qui nous a fait la grande joie de venir à ce micro. Bonjour Monsieur Changeux.
Bonjour.
Jean-Pierre Changeux.
Et je suis très heureux d'être avec vous. Je vous lis très fréquemment et je vous estime beaucoup.
Écoutez, je vous en remercie, la estime est tout à fait réciproque. Donc vous êtes chercheur en biologie et en neurosciences.
Absolument.
Je dois dire que les lecteurs de la Tribune de l'Art ne le savent peut-être pas, mais je suis, dans une vie antérieure, j'étais ingénieur agronome. Je suis ingénieur agronome, j'ai fait des études d'agronomie, et en maths bio, j'apprenais le modèle de mono-Wiman et Changeux, qui est un modèle moléculaire de biologie.
Absolument.
Et Changeux, c'était Jean-Pierre Changeux. Je ne pensais pas qu'à l'époque, je serais un jour derrière un micro à parler avec lui d'histoire de l'art. Donc il est également, bien sûr, collectionneur et donateur des musées, entre autres, et c'est pour cela qu'il est organisateur d'exposition, et c'est pour cela que, bien sûr, que nous le recevons aujourd'hui. Mais tout d'abord, avant de pouvoir débattre avec Jean-Pierre Changeux, la chronique. La chronique. Ça craque de partout. L'expression est triviale, mais c'est celle qui vient à l'esprit lorsque l'on fait le bilan des nouvelles reçues d'un peu partout en France concernant le patrimoine historique. Nous pensions avoir atteint le fond avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy, François Hollande réussit à faire bien pire, en menaçant les fondements même de notre système de protection des monuments. Dans une fuite en avant totalement idéologique et sous prétexte de développement durable, alors que les vrais problèmes ne sont évidemment jamais traités, le gouvernement s'apprête à inclure dans le projet de loi pour la transition énergétique des mesures qui vont ravager l'ensemble des bâtiments anciens non protégés au titre des monuments historiques. Nous reviendrons bientôt sur cette loi, qui doit être discutée devant le Parlement à l'automne, et qui, si elle devait être votée en l'état, signifierait tout simplement la fin de nos villes et villages tels que nous les connaissons aujourd'hui, en permettant, en encourageant et même en rendant obligatoire l'isolation par l'extérieur des bâtiments, en saillie des façades, ou le rehaussement des toitures pour mettre en place une isolation. Alors que le ministère de la Culture ne sert déjà plus à grand-chose et que les DRAC ont le plus grand mal à s'opposer au délire des petits barons locaux, ou au dépeçage en règle auquel sont soumis des quartiers anciens, protégés ou non, de la part de prometteurs sans scrupules, nous reviendrons notamment sur le cas d'un secteur sauvegardé systématiquement mis à sac. Les services du Premier ministre planchent actuellement, selon nos informations sur lesquelles nous reviendrons, sur un démantèlement des DRAC afin de transmettre leurs fonctions aux régions, ce qui consacrera définitivement la fin d'une politique patrimoniale cohérente sur les territoires français et soumettra celui-ci encore plus directement au pouvoir des élus locaux. Quant à la nouvelle loi sur les monuments historiques que prépare le ministère de la Culture, à supposer qu'elle soit toujours d'actualité, ce dont nous doutons fortement, elle ne manquera pas d'être largement amendée pour accentuer encore ses défauts. Les parlementaires s'y préparent déjà. Enfin, alors que le service central de prévention de la corruption vient de révéler dans son rapport d'activité 2013 les graves dérives auxquelles donne lieu l'éolien en France, notamment les prises illégales d'intérêts des élus et les pratiques d'enrichissement personnel, alors que la Cour de justice européenne a condamné le rachat de l'électricité éolienne par EDF comme contraire aux règles communautaires, les éoliennes, dont on sait depuis longtemps qu'elles ne sont même pas une solution au problème de la pollution, continuent de se développer de plus belle en France, avec la bénédiction du gouvernement. Ainsi, les lois préparent méthodiquement la destruction des paysages à la campagne, mais désormais également dans les villes. Parallèlement, rien ne va plus non plus dans de nombreux monuments, au premier rang desquels le château de Versailles. Nous avons montré cette semaine comment celui-ci avait ravagé le terrain des Bortemets, qui fait partie du Grand Parc, juste à côté de la pièce d'eau des Suisses. Nous reviendrons sur les travaux délirants qui éventrent actuellement l'aile du four où intervient Dominique Perrault, des travaux traités comme s'il s'agissait d'un chantier d'architecture contemporaine avec une rampe d'escalier extérieur moderne et même la commande d'une œuvre d'art dans le cadre du 1%. On n'est jamais qu'au château de Versailles. Tout est permis, surtout si cela doit permettre de faire venir encore plus de touristes. Ainsi, sous prétexte que le trop grand nombre de visiteurs met en danger la conservation des œuvres, on s'apprête à installer la climatisation avec des travaux pharaoniques qui feront notamment passer des gaines dans les murs historiques, obligeant à leur destruction partielle. Une catastrophe à venir dont de nombreuses personnes nous ont informés et sur lesquelles nous allons devoir nous pencher rapidement. On ne compte plus par ailleurs les informations sur les désastres à venir un peu partout et dont nous ne pourrons peut-être pas toujours parler car il nous est impossible de tout traiter. Il est temps que les citoyens se réveillent, sinon nous courons tout droit à la catastrophe. Je me retourne vers Jean-Pierre Changeux. C'est un constat pas très heureux. Je ne sais pas si vous suivez à peu près la protection du patrimoine et des monuments historiques, mais en ce moment, ça ne va pas très très bien.
Je me suis toujours beaucoup préoccupé du patrimoine, puisque c'est une tendance spontanée depuis des dizaines d'années que de s'intéresser à la conservation de ces œuvres d'art qui font un environnement culturel particulièrement original pour non seulement les citoyens que nous sommes, mais aussi tous nos enfants, toutes les générations à venir, qui y trouvent un enrichissement unique, exceptionnel, qui me paraît d'ailleurs indispensable pour la créativité à venir, entre autres pour les artistes contemporains. Donc, pour moi, c'est une préoccupation constante. Je ne le cache pas et je vous suis très régulièrement dans vos propos à ce sujet et je suis très vigilant. Si j'ai choisi pour le dépôt de notre collection le musée de Meaux, c'est parce que je considérais que c'était un lieu historique patrimonial et je conserve ce choix. J'aimerais simplement que la municipalité de Meaux s'y intéresse peut-être, je ne demande pas plus qu'autant qu'au musée de la Grande Guerre qui vient d'être créé et qui a demandé beaucoup d'argent.
Nous reviendrons sur le musée de Meaux.
Et je pense que c'est une ville merveilleuse qui me tient très à cœur, que j'ai adoptée parce que j'avais aucune relation ni familiale ni de proximité avec Meaux. Et j'espère beaucoup qu'il y aura de plus en plus de visiteurs pour voir, en plus de ce musée de la Grande Guerre, son patrimoine historique, qui est absolument exceptionnel.
Bien, nous reviendrons sur Meaux, effectivement, dans un instant, mais j'aimerais d'abord que vous nous disiez un mot de votre parcours de scientifique, parce que quand je disais que vous étiez un scientifique, vous êtes un scientifique de haut vol, reconnu par toute la communauté. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on apprend des modèles qui portent votre nom.
Oui, ce modèle était mon travail de thèse, en fait, qui portait sur la chimie des bactéries. Ça peut vous paraître très loin des organismes vivants tels que nous sommes et du cerveau, mais pas du tout, parce que c'est une cellule modèle, cellule bactérienne, et dans cette cellule, il existe des mécanismes de régulation qui permettent, par exemple, à des chaînes de synthèse d'un composant de la cellule d'agir sur sa production. Vous voyez, c'est un système de rétroaction. Ça existe dans nos usines.
Hein, on empêche que la machine s'emballe, en fait.
Qu'elle produise trop, si vous voulez, et qui adapte en quelque sorte la production
aux besoins
de la cellule. Donc, il y a des systèmes spécialisés, des molécules spécialisées, et c'est sur ces molécules que j'ai travaillé initialement. Et ensuite, dans ma thèse, j'ai proposé que des molécules semblables intervenaient dans la communication entre cellules nerveuses. Donc, je suis passé de la cellule bactérienne aux neurones.
Fonctionnement au cerveau.
Et
en fait.
Au cerveau, oui. Et à la communication chimique dans le cerveau. Et donc, nous avons découvert le premier récepteur de neurotransmetteurs. Vous savez, ces systèmes chimiques qui interviennent, enfin, ces molécules comme l'acétylcholine, l'adrénaline, tout le monde en a entendu parler. Hein, et donc, nous avons isolé ces premiers récepteurs et ensuite essayé de comprendre leur rôle dans l'apprentissage et maintenant les fonctions supérieures du cerveau et la conscience. Donc, vous voyez que je suis parti de la molécule et j'arrive aux fonctions supérieures du cerveau sans oublier ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'ai essayé de partir du niveau le plus fondamental pour moi, qui est celui de la chimie, de la chimie du cerveau, et ensuite de construire niveau par niveau un organisme en quelque sorte qui est notre cerveau. Je ne cache pas que le niveau de complexité du cerveau est tel qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un organisme dans l'organisme. En quelques mots, mon parcours scientifique.
D'accord. Donc, on ne va pas revenir sur la science, là-dedans. Mais j'ai une question que je me suis toujours posée. On dit que des fois que le cerveau ne travaille qu'à 10% de ses possibilités. Est-ce que c'est vrai?
Heureusement. Parce que les possibilités changent d'une minute à l'autre. Si,
À tout moment, il travaille 10%, mais toutes ces potentialités sont explorées, en fait.
Oui, mais enfin, ils sont explorés dans le temps.
Oui.
Fort heureusement qu'à un moment donné, nous ne mobilisions qu'une partie de notre cerveau. Cela laisse, en quelque sorte, des espaces de liberté pour même l'imprévu, hein, et pour l'imaginaire. Donc, voilà, si vous voulez, en quelques mots, déjà la création qui apparaît.
Hein. Voilà, alors justement, vous faites, pour vous, il y a un lien très fort entre ce que vous faites en tant que scientifique, en tant que votre métier, et l'histoire de l'art, la reconnaissance des tableaux. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors je sais que vous m'avez dit en préparant cette émission juste avant, c'est très complexe. Alors, je sais bien qu'on va être obligé d'être...
Écoutez, d'abord, ce que je vais peut-être vous dire, c'est comment je suis arrivé à créer la connexion. C'est que, en fait, étant adolescent, je m'intéressais beaucoup aux espèces animales, entre autres aux mouches, qui sont peut-être pas aussi belles qu'on pourrait le croire que les papillons, mais qui m'intéressaient aussi pour leur diversité sur le plan esthétique. Il y a déjà un intérêt, en quelque sorte, esthétique dans les choses de la nature. Et puis, progressivement, évidemment, à la suite des professeurs que j'ai eus, qui m'ont beaucoup encouragé, je me suis dirigé vers la biologie et comme j'ai dit tout à l'heure, vers la biologie moléculaire. Pour moi, le colibacille est un organisme d'une extrême simplicité qui sent très mauvais, qui n'a rien d'attractif et je dirais rien d'esthétique. Donc je suis passé vers le cerveau justement pour retrouver ces premiers goûts d'adolescent et m'intéresser à un système plus élaboré qui permette justement d'avoir accès à l'œuvre d'art. En progressant dans les enseignements que j'ai fait au Collège de France chaque année, comme vous savez, on doit faire un nouveau cours. J'ai été pendant 30 ans professeur au Collège de France, ce qui veut dire que pendant 30 années, c'était un nouveau cours. Et j'ai commencé par faire une première leçon, une fois, sur ce que l'on sait des sciences de connaissance, qu'on appelle les sciences cognitives, hein, les fonctions supérieures du cerveau, le langage, la mémoire, la conscience, etc. Et la perception de l'œuvre d'art, juste un premier contact. D'ailleurs, ça correspondait à l'exposition que j'avais fait à Nancy en 1988. C'est là où j'ai écrit le premier texte.
Rappelez-moi le titre de l'exposition.
C'est de Niccolò Dell'Abate à Nicolas Poussin.
Oui, effectivement. Voilà. Vous avez fait Amour, en fait.
C'est Amour.
Nancy,
c'est
Amour.
Non, ça, c'est au musée de Meaux.
C'est au musée de Meaux, c'est ça, oui, c'est ça.
Alors, à Nancy, c'est la lumière au siècle des Lumières.
D'accord.
Voilà. Donc, à Meaux, j'avais essayé de voir l'histoire de l'art dans une dynamique évolutionniste et cette idée de présenter donc des œuvres d'art qui m'intéressaient, cette idée je l'ai un peu développée, essayer de comprendre comment au fil de l'évolution le cerveau de l'homme est arrivé à percevoir l'œuvre d'art, d'abord à créer et la percevoir. L'œuvre d'art étant selon moi un processus de un moyen de communication intersubjective qui touche avant tout les émotions, qui transmettent aussi un message, mais différent du langage, tant parlé qu'écrit. Donc, un ensemble de fonctions spécialisées dans notre cerveau, dans ce mode de communication. Alors, il y a évidemment les arts plastiques, mais aussi la musique. J'ai fait un certain nombre de propositions dans ce cadre, non seulement pour, je dirais, la contemplation et la perception d'œuvres d'art, les émotions et le mécanisme des émotions, qui sont en relation donc avec nos fonctions cognitives. En un mot, je simplifie énormément, notre cortex préfrontal, qui est très développé chez l'homme comparé à ce qu'il est chez le singe, par exemple, qui intervient dans les synthèses mentales, en quelque sorte. Et sa relation avec le système des émotions, le système limbique. Et donc une espèce de synthèse de la connaissance et de l'émotion, si vous voulez, de la rationalité, de la raison et des émotions, d'où le titre « Raison et plaisir » que j'ai donné.
Justement, quand on travaille, quand on aime l'histoire, l'art, quand on travaille sur le cerveau et les émotions qu'il nous procure, que l'art nous procure, est-ce qu'on est son propre sujet d'étude? C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé de comprendre ce qui se passait en vous quand vous avez...
Oui, je voudrais dire à ce propos, c'est que pour moi, cette réflexion sur l'art est très spéculative. C'est une réflexion qui est très organisée et qui est plutôt un projet de recherche que j'ai développé depuis pas mal d'années. J'ai des collègues qui se sont mis au travail, qui ont essayé de faire de l'imagerie cérébrale pendant la perception de l'œuvre d'art, distinguer le beau du laid, etc. C'est très sujet à controverse. Mais j'ai plutôt eu une réflexion, je dirais, théorique, qu'une approche expérimentale directe. Et j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, que des jeunes étudiants en histoire de l'art puissent s'intéresser à cette expérience et aient une double formation, si vous voulez, histoire de l'art, neurosciences, et puissent poser les bonnes questions et trouver les moyens de répondre à ces questions. J'ai été évidemment très expérimentateur en ce qui concerne la biologie moléculaire et les neurosciences, mais on peut pas tout faire. Et là, il s'agit pour moi d'essayer de voir clair dans cette discipline et je dirais de susciter des vocations. Voilà, c'est ça ma...
Et vous connaissez des jeunes chercheurs qui travaillent sur ce sujet?
Malheureusement, pas beaucoup, non. Une chose qui est intéressante, c'est que des neurologues, c'est-à-dire des médecins qui s'intéressent aux conséquences de lésions, par exemple du cortex cérébral, depuis longtemps se sont intéressés à l'œuvre d'art. Et il y a donc, je dirais, une possibilité d'intéresser, et c'est ce qui se passe actuellement, des médecins neurologues pour l'œuvre d'art, et sa création. Il y a par exemple des recherches qui se font sur la relation entre certaines dégénérescences du cortex frontal et la créativité. Il y a des mesures objectives de créativité qui sont réalisées. Et je pense que on peut voir une ligne de recherche dans cette direction. Il y a aussi, bien entendu, d'autres aspects plus moléculaires et cellulaires sur la perception visuelle elle-même. Et là, si vous voulez, on est très surpris que cet enseignement ne touche pas les restaurateurs. Parce que qu'est-ce que fait un restaurateur? C'est avant tout de comparer des couleurs, des textures, etc. Il y a toute une physiologie de cet aspect-là des choses. J'en ai parlé bien souvent devant les autorités culturelles de notre pays sans que les réponses soient arrivées. Malheureusement, ça viendra peut-être un jour. Mais je pense que c'est une autre orientation de ce qui peut être fait pour mettre en relation l'art et le cerveau, si vous voulez. Deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres.
Ça touche aussi, puisque finalement ce n'est pas expérimental, c'est plutôt...
Là, je vous parle de moi.
Oui, c'est ça.
Mais de ma recherche, qui est une recherche qui est quand même...
Mais ça touche à la philosophie, quelque part.
Oui, si vous voulez, un petit peu, qui était quand même minoritaire par rapport à mon activité scientifique principale.
Bien sûr, tout à fait.
Mais ça me permet, par exemple, nous avons travaillé, Stanislas Dehaene, qui est un de mes anciens étudiants, qui est devenu d'ailleurs professeur au Collège de France, oui, et on continue à travailler un peu ensemble. Nous avons conçu ensemble une théorie sur l'accès à la conscience, et j'ai évidemment essayé de voir dans quelle mesure, si vous voulez, le choc esthétique, par exemple, ne pouvait pas être compris dans le cadre de cette théorie d'accès à la conscience. Donc vous voyez qu'il y a des liens entre l'expérimental, le théorique et...
De toute façon, on a bien compris que votre métier de recherche était bien plus large que cela et bien à côté de cela. Mais là, justement, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre les deux, puisque
on
parle ici d'histoire de l'art et d'esthétique.
Absolument. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce lien pourrait se développer en ce moment, presque, je dirais, d'une manière explosive. C'est-à-dire que on a des équipements pour faire des mesures, on a des connaissances sur l'activité du cerveau telles que Je pense que une véritable neuroscience de l'œuvre d'art, à mon avis, est possible.
Elle est possible, mais pour le moment, comme vous dites, elle n'est pas vraiment en train de naître.
Si, elle est en train de naître, mais oui. Elle n'est pas encore suffisamment développée. D'accord. C'est ça que je veux dire. Et je pense qu'elle est faisable. D'accord. Et même dans notre pays, si vous voulez, dans des laboratoires comme l'Institut du cerveau de la moelle épinière à Salpêtrière, ou Neurospin à Saclay, il y a les compétences pour faire cette recherche.
Alors, en simplifiant énormément, parce que je sais que c'est pas possible de faire autrement, mais quand même, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on peut... Comment, quand on regarde un tableau, par exemple, comment se fait une attribution ? C'est ce genre de choses, il y a forcément... Ça doit, de temps en temps, on regarde un tableau, on se dit, c'est ce peintre-là, on n'a pas analysé la chose. Donc comment est-ce que ça se fait ? C'est des comparaisons avec... On a une bibliothèque interne,
bien
comment
sûr.
Ça,
oui,
ça marche ?
Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est pas né... Il ne s'agit pas nécessairement de mécanismes très différents de ceux qui... interviennent, par exemple, dans la reconnaissance d'une scène de la vie quotidienne et que vous remémorez plusieurs années après, d'une rencontre que vous avez faite avec quelqu'un, etc. Bon, la différence, c'est que là, on a affaire à des œuvres extrêmement définies, dont il existe une grande diversité, réalisées par des artistes très précis, et que nous avons donc à avoir dans notre tête, si on veut faire une attribution sans document, ce que je ne recommande pas, une mémoire, une sorte de catalogue de toutes les œuvres d'art que nous avons pu voir, déjà attribuées dans les musées ou chez des collectionneurs ou chez des marchands. Et donc, c'est à partir de ce catalogue que la confrontation va se faire entre ce qui est perçu et ce qui est mémorisé. Et il y a une conjonction qui se produit dans notre cerveau et qui permet de signer, en quelque sorte, l'image par comparaison avec des œuvres déjà vues et déjà attribuées. À mon avis, c'est en deux mots un mécanisme de base. D'ailleurs, ça se rapproche aussi des processus de reconnaissance des visages.
Alors justement, ce que je disais, c'est que moi, dramatiquement, je ne suis pas physionomiste du tout.
Des fois, je vois pas des...
Et pourtant, j'arrive à peu près à reconnaître, alors beaucoup moins que certains, mais mieux que d'autres, l'auteur d'un tableau.
Oui,
je pensais jusqu'à présent et je croyais même que vous m'aviez dit que c'était des zones différentes du cerveau de travail.
C'est-à-dire que il y a dans une œuvre d'art non seulement les visages qui sont reconnus par les territoires et les circuits déjà utilisés pour reconnaître quelqu'un, hein, mais aussi les figures, les formes. Et là, vous entrez dans une diversité considérable qui est d'ailleurs analysée par des neurones spécialisés qui se trouvent dans nos cortex visuels successifs, qui sont organisés de manière hiérarchique et qui vont, par exemple, analyser la couleur, la localisation dans l'espace, les formes géométriques, etc. Il y a des neurones spécialisés pour tous ces divers éléments qui existent dans notre corps. Et, si vous voulez, chacun va travailler pour soi, puis tout va être réuni dans une synthèse globale pour l'œuvre d'art.
Là où j'ai l'impression que c'est quand même des choses différentes du cerveau qui travaille, c'est qu'un portrait, par exemple, je peux reconnaître le peintre, mais j'ai beaucoup de mal à reconnaître les modèles. C'est vraiment la question de la physionomie du visage.
Oui, bon, peut-être qu'il y a un petit déficit à ce niveau-là, mais je m'inquiète pas.
C'est
grave,
mon cerveau à la science, peut-être.
Non, mais... je m'inquiéterai pas. Je pense que.
Je m'inquiète pas, c'est simplement ça m'a toujours paru curieux d'être aussi peu physionomiste en reconnaissant les tableaux.
Oui, mais je pense que c'est aussi l'attention que vous portez. Peut-être que vous êtes.
Je dis pas que je n'aime pas les gens.
peut-être que vous portez plus d'attention quand vous les examinez aux tableaux que aux personnes que vous voyez ou rencontrez.
Alors, une autre question.
Et ça, c'est un point important, l'attention, oui. Parce que ça correspond, si vous voulez, pour le collectionneur. Une démarche importante. C'est-à-dire, on voit l'œuvre d'une manière globale, et ensuite on l'analyse, et on porte son attention sur les détails. Et ça permet de contribuer, si j'ose dire, à une attribution aussi précise que possible. Après, parce que, si vous voulez, un artiste se caractérise non seulement par sa composition, mais aussi par sa manière de faire. Même aussi la touche. qui permet aussi de distinguer la copie de l'original, etc. Il faut faire entrer toutes ces caractéristiques dans la reconnaissance de l'œuvre.
On connaît tous de très grands attributionnistes, des gens qui ont un véritable œil, par exemple Pierre Rosenberg, pour ne pas le citer, oui. Ou d'autres, hein, bien sûr, des gens comme Jean-Pierre Cuzin, des gens comme Michel, etc. Mais la question, est-ce que je connais aussi, on connaît aussi tous, on ne donnera pas de nom, là, en revanche, des historiens de l'art qui sont peut-être très bons sur un artiste, mais qui n'ont pas d'œil, qui ne savent pas reconnaître un tableau d'un autre.
Oui.
Et est-ce que est-ce que quand on travaille, on peut devenir attributionniste ? Est-ce que c'est quelque chose c'est d'inné ou d'acquis ? Est-ce que ça peut se travailler,
ben, moi, pour ma part, j'ai fait, en débutant, des erreurs d'attribution colossales.
Hein, faire des erreurs ne me semble pas choquant. Enfin, même Pierre Rosenberg reconnaît qu'il a fait des erreurs et qu'il continue à en faire. Mais est-ce qu'on peut s'améliorer ? Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'œil peut en avoir un s'il travaille beaucoup ? À votre avis ?
Je n'ai pas vraiment une réponse définitive sur ce sujet. Il est certain que certaines personnes sont plus portées vers l'attribution que vers d'autres types de concepts plus abstraits, plus mathématiques, si vous voulez. Il y a certainement une certaine forme de don, en quelque sorte, pour la mathématique, comme il peut y en avoir pour les formes visuelles. Vous avez le même problème avec la musique et, si vous voulez, l'oreille absolue. Bon, il y a peut-être... Je crois qu'il faut voir les êtres humains comme extrêmement divers dans leur capacité cérébrale, mais au lieu d'avoir une diversité qui serait unité intelligence, un QI haut ou bas, je trouve ça absurde, c'est plutôt des prédispositions pour certains aspects, certains traits, etc. Et à cet égard, l'éducation est tout à fait centrale. Si vous voulez. Pour moi, ça reste quand même... et peut-être que l'intérêt que j'ai pour l'attribution des tableaux vient aussi du fait que quand j'étais adolescent, je me suis intéressé à l'identification des espèces animales que je collectionnais. Si vous voyez, il y a une démarche qui est un peu semblable. Ça s'apprend. Et moi, je l'ai appris très tôt. Voilà.
Les nouvelles très très brèves.
Nous aurions pu également, dans notre chronique, citer cette nouvelle dans les catastrophes patrimoniales à venir, dont Anne Hidalgo s'est faite désormais la championne absolue. La maire de Paris veut maintenant changer le PLU, le plan local d'urbanisme. Rien d'étonnant à cela, puisque celui-ci, pourtant déjà modifié pour plaire à LVMH, est la raison pour laquelle le tribunal administratif a annulé le permis de la Samaritaine. Anne Hidalgo veut entre autres développer des constructibilités nouvelles en harmonie avec le paysage. On peut craindre le pire. Une nouvelle bataille s'engage donc, dont nous nous serions bien passés, car il est certain que ce nouveau PLU sera incroyablement permissif. Nous reviendrons bien sûr dessus dans les prochaines semaines et les prochains mois. Anne Hidalgo toujours. Un de nos followers sur Twitter s'étonnait de ce que nous parlions beaucoup de la maire de Paris. Il pense même que nous faisons une fixation à son égard. Qu'il se rassure, nous oublierons Anne Hidalgo du jour au lendemain, le jour où elle ne sera plus maire, ou, mais c'est un peu plus utopique, le jour où elle arrêtera de détruire la ville. Si nous parlons beaucoup et souvent d'Hidalgo, c'est que celle-ci, hélas, c'est très active. Et à peu près toujours de la pire des manières. Presque tous les jours, en fait, ou presque toutes les semaines, on apprend une nouvelle initiative ou une nouvelle non-initiative, quand ça concerne les églises de la ville, par exemple, d'Anne Hidalgo. Donc il est normal que la Tribune de l'Art parle d'Anne Hidalgo. Ce n'est pas spécialement une obsession pour elle. Au contraire, nous préférerions la voir la moins possible. Sur My Major Company, donc un site de crowdfunding, comme on dit, c'est-à-dire de financement participatif, un appel est lancé pour une souscription modeste, 10 000 euros, mais qui permettra d'aider à la restauration des écuries du château de Landal, un superbe édifice du XVe siècle en Bretagne. C'est une famille qui a déjà réhabilité trois châteaux, qui prend désormais en charge celui-ci. Nous mettrons en ligne sur la page de l'émission les liens vers les pages qui décrivent ce beau projet. Je pense qu'il faut vraiment soutenir ces initiatives individuelles. Absolument. De personnes qui dédient leur vie, on ne peut pas dire autre chose, qui dédient leur vie à sauver des monuments historiques. Ça nous console de bien des vandales.
Absolument.
La pétition pour la sauvegarde du Sporting d'hiver de Monaco a, depuis la publication de notre article, été davantage signée, mais très insuffisamment. Compte tenu du nombre de lecteurs de la Tribune de l'Art, du nombre d'auditeurs, du nombre de followers sur Twitter, vous devez pouvoir faire mieux encore. J'encourage chaque auditeur à signer cette pétition. Charles Le Trône est un architecte art déco important, le Sporting d'hiver de Monaco est un monument important, et même s'il est peu probable qu'on arrive à le sauver, parce que la destruction doit intervenir d'ici la fin de l'année, il est indispensable qu'on essaye de le faire. Et chacun a une responsabilité. Les pétitions, il y en a beaucoup. Mais de temps en temps, les pétitions, ça fait peur. Ça permet de réveiller. En tout cas, ça permet de signaler à tout le monde que le patrimoine est très en danger. Et je pense que c'est très important à cet égard. Je me retourne de nouveau vers Jean-Pierre Jeanjeu. Nous allons parler maintenant de votre collection. Puisque vous avez toujours une collection importante dont vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez donnée en grande partie. Au musée de Meaux.
Absolument.
Alors, vous avez un petit peu dit pourquoi Meaux, parce que c'est une belle ville, parce que vous avez des attaches avec Meaux. Alors, je ne veux pas vous fâcher, je vais dire du mal de Jean-François Copé, qui est le maire de Meaux, je ne veux pas vous fâcher avec lui, surtout. Donc là, pour le moment, Jean-Pierre Changeux n'a rien dit contre le maire de Meaux. Mais évidemment, moi, je suis un peu choqué que ce musée. Alors, la dernière fois que je suis allé le voir, quand même, reconnaissons-le, le musée mettait bien en valeur votre collection, elle était largement présentée. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un temps, il y avait des expositions intéressantes, il y avait des acquisitions intéressantes, et qu'on a un peu l'impression que ce musée s'endort. Je ne suis pas certain que ça soit que l'art soit une préoccupation de Monsieur Copé, qui a en ce moment paraît-il d'autres soucis, m'a-t-on dit. Donc pourquoi cette collection, d'abord pourquoi l'avoir constituée? Vous avez commencé à acheter quand? Et pourquoi? Et quelle œuvre? Et pourquoi le 17e français ou le 18e français?
D'abord, cette collection a été réunie avec le concours de mon épouse. Annie Changeux, et cette association, en quelque sorte, a permis d'explorer pas mal les salles de vente et donc d'acheter dans des conditions où certains tableaux étaient présentés, n'étaient pas réellement expertisés, expertisés avec une incertitude, pourquoi pas, et donc je me suis intéressé à l'attribution de d'œuvres qui a priori me paraissaient très loin de mes dispositions financières. Donc j'ai donc reconnu que certaines œuvres du 17e et 18e siècle à l'hôtel de Rouault pouvaient être acquises pour avec des moyens modestes. Et donc, ça nous a incité à rassembler des œuvres de cette époque qui aussi m'intéressent beaucoup. Alors là, c'est peut-être le côté neurobiologiste, si vous voulez, parce que ce sont des œuvres qui ont une dimension symbolique importante. Ce sont des scènes historiques ou religieuses où des êtres humains sont décrits, sont mis en situation, sont organisés de manière à raconter en quelque sorte une histoire. Et au fond, ce sont des témoignages, je dirais presque de ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain et entre autres comment il voit la mort, comment il voit la naissance, comment il voit les divers drames de la vie, peut-être même du quotidien, racontés en quelque sorte dans ces œuvres. Et il y a aussi cet aspect très important chez Lebrun d'essayer de reprendre de manière scientifique, en quelque sorte, l'expression des émotions. À la fois sur le visage, Lebrun a produit un texte sur ce sujet qui est évidemment très, très lu et très important, et qui a été également mentionné par Darwin, qui a aussi lui écrit un livre sur l'expression des émotions. Donc vous voyez qu'il y a chez Lebrun, inspiré d'ailleurs par Descartes, l'homme de Descartes, une véritable recherche scientifique en relation avec l'art. Et je pense qu'il y a, à certains égards, une certaine forme de science de l'art qui s'est développée à cette époque-là et qui nous touche beaucoup. Je ne sais pas, évidemment, à cette époque que la science de l'art a été créée, parce qu'il faut remonter à la Renaissance, etc., et même avant, pour à l'Antiquité, pour voir comment le lien entre art et science a été établi et est très fondamental, mais il s'exprime de manière particulièrement intéressante dans la peinture du XVIIe et XVIIIe siècle.
Donc vous avez acheté surtout donc à Drouot, mais également chez des marchands également.
Oui, Opus.
Opus également, oui, c'est ça. Et est-ce que vous
avez un ami, toujours un ami qui est marchand Opus, chez qui j'ai acheté un certain nombre d'œuvres récemment. Mais au départ, je n'achetais jamais chez les marchands. C'était toujours.
Donc c'est plutôt récemment que vous achetez Opus.
Plus récemment parce que je j'ai moins de temps pour aller explorer.
Vous avez moins de temps qu'avant quand vous étiez...
Ah oui. Oui, c'est une chose qui vous paraît surprenante, mais c'est vrai.
Oui.
Parce que je n'ai pas exactement le même rythme de vie et je fais ça très rapidement, alors que maintenant, ça me demande quand même...
Et vous avez acheté, donc récemment, vous avez acheté quoi, par exemple?
Ben, je n'ai pas acheté un Blanchard.
Vous avez raté un Blanchard?
Ben, vous savez, vous en avez
parlé. Celui dont j'ai parlé, effectivement, qui était...
Qui a été attribué à l'école française du XVIIIe siècle.
Donc c'était aux États-Unis, c'est ça?
C'est ça, oui.
Et
c'est...
vous l'aviez donc vu? Moi, oui. Je n'avais pas vu la vente, donc je l'avais pas repéré.
Moi, j'avais vu et donc j'ai essayé de faire quelques enchères par téléphone, mais pas très loin. Parce qu'il était, il était évalué à un prix qui était accessible pour moi et malheureusement, il a fait.
Et vous l'avez vu sur
il
Internet?
Il n'était plus accessible.
Oui. Vous l'avez vu sur Internet? Donc ouais. Vous regardez beaucoup les ventes sur Internet, en fait?
Je regarde, c'est toujours pour moi aussi très instructif dans le cadre de. Aussi des dations.
Si vous voulez. Oui. On parlera des dations parce que vous avez été président de la commission des dations. Ouais, alors allez-y si vous voulez, puis on verra sur le sujet après.
Non, simplement parce que si vous voulez, je regarde les catalogues de vente, je regarde Internet, je lis beaucoup vos articles, précisément parce que j'ai toujours en tête cette préoccupation d'enrichissement du patrimoine national, non seulement sa conservation, mais aussi son enrichissement. Et je m'y suis consacré pendant 24 ans, et ça reste presque un réflexe chez moi, tellement ça m'intéresse que la France continue à présenter des œuvres d'art importantes, non seulement au Louvre, mais aussi dans nos musées de région, et dans les châteaux, dans les espaces peut-être plus restreints, mais qui sont visités par non seulement les Français, mais aussi beaucoup de touristes.
Donc les églises, par exemple.
Les églises parisiennes, c'est un véritable musée, comme ça a été dit, d'ailleurs.
Message pour Madame Hidalgo. Oui, je suis obsédé, finalement, probablement.
Non, mais moi aussi, bien que laïque total, je veux dire que pour moi...
Également, moi, je suis complètement laïque également.
L'état de nos églises parisiennes est désastreux. Ça me fait mal, si vous voulez. Quand je vois qu'il y a à Saint-Eustache une fresque attribuée à Vouet qui est encrassée, comme c'est pas possible, couverte... Ça me désespère. Alors que il y a des quantités de visiteurs dans cette église. Il y a un début de restauration de quelques chapelles.
Mais... À Saint-Eustache, l'attribué, c'est plutôt de Corneille, je pense, non?
Non. Il y a dans la partie qui n'est pas restaurée de l'autre côté. À oui. À gauche, en entrant. Ah. Oui. Oui, mais vous regarderez.
D'accord. Bon.
Mais peut-être que cette attribution est erronée, hein. Mais disons que c'est quand même une œuvre. Il y a ça, il y a des quantités d'autres. On va à Saint-Méry.
Ça s'écroule complètement. Je confirme, c'est terrifiant.
Oui, non, et je trouve que.
Mais Madame Hidalgo, toujours elle, a dit tout va bien la semaine dernière. Pour les églises, je vais poser une question.
Ah non.
Tout va bien, elle dit. Tout va bien.
Je dirais rien ne va plus. Enfin, c'est plutôt ça le problème. Et je pense que c'est aussi une erreur de jugement, en sens que j'ai beaucoup d'Américains qui viennent à Paris pour des relations scientifiques, etc., et qui en profitent lorsqu'ils sont à Paris pour visiter. Et je leur ai donné un guide des églises de Paris. Hein, pour... Ils sont fascinés, passionnés.
Bien sûr.
Je pense qu'il y a, si on veut parler gros sous, si vous voulez, il y a une source d'enrichissement considérable. De faire connaître ces églises, bon, je ne dis pas qu'il faut faire comme à Venise et faire payer les gens qui entrent dans l'église. Je trouve ça très... Au contraire, je suis très hostile à ce genre de choses. Mais que les touristes viennent spécialement, passent plus de temps à Paris... pour visiter non seulement le Louvre, les musées...
Il y a plein d'églises de parisiennes, alors qu'ils sont magnifiques, il n'y a pas un touriste, pas un touriste.
Non, je ne sais pas si vous avez vu la donation que nous avons faite à Meaux, mais il n'y a pas beaucoup de touristes non plus. Hein.
Pas beaucoup, non. Il y avait quelques personnes quand même, le jour où nous y sommes allés, il n'y a pas très longtemps, on était à peu près 4 ou 5 visiteurs.
Ah, c'est déjà pas si mal. Mais s'il y avait un billet joint avec la Grande Guerre, ce que j'ai toujours demandé... La municipalité de Meaux,
il y aurait beaucoup plus de monde, bien sûr.
Il y aurait beaucoup plus de monde, mais c'est trop difficile. Ah oui, c'est dur. Compliqué. C'est compliqué.
Bon, pas mal. Vous avez raté ce Blanchard, mais vous avez quand même acheté un dernier tableau. Il y a forcément un, pas mieux acheté, l'achat le plus récent.
Oui, bah c'est effectivement un tableau du XVIe siècle qui m'intéresse beaucoup et qui, dont l'attribution est très, très discutée, et qui est... la décapitation de Saint-Jean-Baptiste et, qui est un grand tableau sur bois qui est peut-être attribué à Faber.
Martin Faber, oui, ah ben, oui je rappelle, vous l'aviez montré et j'avais sorti de nulle part ce nom qui était vraiment, qui avait, alors là il y avait déjà quelque chose dans mon cerveau parce que je me rappelais de l'exposition sur la peinture en Provence, oui. et j'ai sorti le nom de Martin Faber alors que bon, donc ça va être ça probablement.
Oui, bah c'est exactement celui-là.
Et c'est vraiment sûr, c'est sûr que c'est Martin Faber.
Non, pas du tout, mais enfin, disons que c'est une hypothèse qui j'ai essayé de tester sur vous et je veux dire que vous en tant qu'expert vous m'avez
expert non, j'ai sorti Martin Faber
vous avez réagi de la bonne façon.
Oui, alors donc c'était le dernier que vous avez acheté, ça fait longtemps, je ne savais pas que c'était, mais effectivement je ne sais pas d'où est venu, je ne sais pas ce qui est passé dans mon cerveau à ce moment-là. J'ai peut-être lu dans vos pensées.
Non, ça c'est pas possible.
Ça, bon, ça sera jamais possible ça.
Non, ça me paraît.
Ça sera jamais possible. Ça, c'est dommage. Et est-ce que donc vous continuez à donner un mot, comment ça se passe? Parce que vos murs doivent être vides puisque vous avez quand même beaucoup de choses au
nom du musée. Non, enfin, il y en a d'autres qui reviennent. Enfin bon, non, je les ai déposés et je les ai donnés progressivement année après année. Maintenant, il en reste un petit. Ensemble, et peut-être que certaines de ces œuvres pourront faire l'objet d'une dation lorsque ma femme et moi disparaîtrons pour payer d'autres droits.
Enfin, et donc, c'est... chez vous, il y a des tableaux accrochés.
Quelques-uns, oui.
Très bien. Bon. Et donc, vous ne regrettez pas d'avoir donné un mot?
Ah, pas du tout. Pour le cadre, non, je trouve que c'est le meilleur endroit. Pour moi, je suis très content. Et ce que je souhaiterais beaucoup, c'est que la municipalité actuelle et les successives éventuelles puissent valoriser en quelque sorte ce patrimoine et aussi l'enrichir. C'est vrai qu'il y a, il y a eu une acquisition d'un mignard de Bossuet par...
C'était il y a longtemps déjà.
Il y a quelques années, oui. Et ce serait intéressant que ça soit poursuivi, qu'il y ait aussi éventuellement parmi vos auditeurs d'autres donateurs qui enrichissent le musée et qu'il y ait une plus grande partie de cet ensemble musée Bossuet qui soit mise à la disposition justement de la présentation des tableaux.
Alors on a parlé très rapidement des expositions que vous avez faites. Donc il y a plusieurs expositions. Moi je me rappelle très bien celle que j'avais vue, c'était à Niccolo de l'Abbaté. Oui. Donc on en a parlé tout à l'heure. Oui. C'était une exposition sur la fin du 16e, le début du 17e siècle, c'était en 88. Donc j'étais allé la voir, effectivement, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient allés la voir. Des Passions de l'âme, donc, qui avaient été chroniquées sur la Tribune de l'Art.
Oui,
donc,
absolument.
C'est votre
2006,
collection.
C'est votre collection de 2006. Collection, oui. Ce qu'on a donné au MOU et aussi au Louvre, trois œuvres qu'on a données au Louvre.
Trois œuvres, dont un Sequeira.
Oui, c'est qui Hermira, et un Thomas Blanchet.
Et un Thomas Blanchet, oui.
Qui a d'ailleurs quelquefois été présenté dans la salle des Poussins. Ça peut vous paraître surprenant.
Non, Poussin n'est pas très, enfin, Blanchet n'est pas très loin de Poussin.
Il ne détonnait pas.
Oui, oui.
Ce qui m'a fait vraiment plaisir.
Et donc ensuite, vous avez fait également L'âme au corps avec Jean Clair. Donc c'était au Grand Palais, ça.
Oui, ça c'est, oui, oui.
Rappelez-nous en deux mots quel était l'exposition, le sujet de l'exposition qui était, là, qui se rapprochait quand même de votre science.
Oui, oui, alors ça c'était en 93, et il s'agissait de, c'est Jacques Sallois, qui était directeur des musées de France à l'époque, qui m'avait demandé de trouver un moyen de reprendre l'idée du Muséum central des arts, des sciences et des techniques, qui avait été proposé par Quatremer de Quincy, puis par la Convention. Ce musée n'a jamais été construit et par manque de crédit. Enfin, je ne sais pas si... Déjà à l'époque. Hein. Et finalement, il a été scindé pour le Louvre, musée des arts, des sciences, le musée d'histoire naturelle et des techniques, le musée des arts et métiers. Donc, il souhaitait qu'on illustre la fondation de ce musée, qui pour moi reste quand même très cher, auquel je suis très attaché, parce que c'est en quelque sorte une implémentation muséale de l'encyclopédie. C'était ça. C'est-à-dire cette présentation simultanée de l'art, de la science et des techniques, qui reste encore à réaliser. Et donc, ce qui a été choisi, c'est comment les neurosciences, enfin comment les sciences du cerveau, comment les modèles qu'on avait du cerveau ont pu influencer les œuvres d'art. Alors, on a commencé par évidemment les livres d'anatomie qui ne datent pas d'ailleurs du XVIIIe siècle, mais enfin qui étaient avant la Révolution, des références de base, et avec aussi les cires anatomiques très très émouvantes. Et puis progressivement les relations avec les théories de la phrénologie de Gall, la découverte de l'électricité animale avec Galvani, et à propos de Gall, comment celui-ci a influencé Courbet, David Danger, et comment les portraits que l'on a fait insistaient beaucoup sur les bosses du crâne.
Mais c'est ça, la physiognomie, c'est la même chose.
Oui, c'était antérieur, la physiognomie, oui. Et ensuite, on est passé à Darwin, à l'évolution, avec des références aux fossiles, ou à la diversité des espèces animales, etc. Et ensuite, une étape importante pour moi a été les premiers dessins de la cellule nerveuse et Santiago Ramón y Cajal, qui a été à la fois un très grand anatomiste, un extraordinaire dessinateur. Puis on est arrivé évidemment à Charcot et à Freud.
Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, il reste évidemment le catalogue. D'où l'importance des catalogues qui sont tout ce qui reste d'une exposition quand celle-ci est terminée.
Pour moi, c'est essentiel. Je pense que si on veut collectionner des œuvres d'art, il est indispensable d'avoir un ensemble bibliographique et qui est d'abord constitué par les catalogues et les monographies, bien entendu.
La revue de presse.
L'AFP, une dépêche AFP, Philippe Etty se félicite que le budget de la culture soit sanctuarisé. C'est pour les 3 années à venir. Je ne comprends pas du tout. Le budget est sanctuarisé alors qu'il l'avait déjà été par François Hollande il y a 2 ans. Ou alors celui-ci aurait menti. Je ne peux pas le croire. 2 articles parus sur Mars Actu, Marseille Actualité en fait, et j'ai découvert un très bon journaliste que je ne connaissais pas, 2 très bons articles que je vous recommande, c'est sur internet, je mettrai le lien, de Benoît Gilles. Avec 2 articles qui se recoupent finalement. Le premier, la rotonde de la gare Saint-Charles bientôt sauvée. Alors j'ai découvert, grâce à cet article, un super bâtiment en fer bâti en 1889, un bâtiment SNCF rond, donc c'est une rotonde où étaient stockées les locomotives. C'est absolument admirable. La DRAC souhaite la classer, la SNCF souhaite-t-elle la démolir, et apparemment la ville de Marseille souhaite la classer. Donc c'est une bonne chose de la part de la ville de Marseille, mais il faut savoir que le classement, surtout à Marseille, ça ne sert pas toujours à grand-chose. Parce que dans le même temps, et c'est toujours Benoît Gilles qui nous l'apprend, la ville a laissé disparaître l'atelier Nadar. C'est-à-dire que c'était le dernier studio de photographe professionnel du 19e siècle à ce jour, connu et préservé en France et sans doute au-delà. Ça, c'était le ministère de la Culture qui le disait. Eh bien, la ville de Marseille, il y a quelques années, l'a vendu à sa société d'économie mixte. C'est une société d'économie mixte qui l'a vendu elle-même à un particulier dont on ne sait pas très bien ce qu'il allait en faire. Finalement, rien ne s'est fait, on a laissé pourrir les affaires, et ça s'est écroulé. Donc l'atelier de Nadar vient de s'écrouler, le dernier atelier qui existait encore. Donc on espère au moins que la rotonde de la gare, est-ce qu'elle sera protégée, on ne sait pas, mais si on ne fait rien, si on protège et qu'on ne fait rien et qu'on ne restaure pas, et qu'on ne sauve pas, bah, tout s'écroule. Et à Marseille, le patrimoine, malheureusement, n'est pas non plus, un peu comme à Paris, une préoccupation première. Dernière chose, je l'avais ici, mais peu importe, c'est comme après l'Express et d'autres journaux, Valeurs Actuelles, paru hier 10 juillet 2014, propose un numéro spécial, La France défigurée. On y parle notamment des éoliennes, que nous abordions dans notre chronique, mais aussi des églises en danger, dont nous parlions avec Jean-Pierre Changeux. Signalons également dans ce même numéro une interview d'Alexandre Gaddi. Je pense qu'il n'est pas indifférent, la presse a un rôle très important à jouer, et depuis quelque temps, en même temps que les menaces s'accentuent, la presse fait un peu plus son rôle en parlant. Mais il faudrait que les gens comprennent que les journées du patrimoine vont avoir lieu en septembre. C'est de plus en plus une énorme tartufferie. Au moment où on célèbre, on fait deux jours par an, on fait les journées du patrimoine, et le reste du temps, on le démolit. Je me retourne vers Jean-Pierre Changeux pour parler de cette fête-ci des Dations. Donc,
conservation du patrimoine.
Vous l'aviez, tout à fait. Vous avez déjà abordé ce sujet parce que vous étiez pendant 24 ans président du comité, de la commission des Dations,
oui.
Donc, qui décide en fait de retenir ou non des œuvres proposées par des particuliers en paiement de l'impôt, soit sur la fortune, soit sur le revenu maintenant. Je crois que c'est faisable également.
Non.
Pas sur le revenu ?
Non. C'était sur... surtout, c'est les droits de succession.
Les droits de succession.
Et de donation.
Et l'impôt sur la fortune et les droits de succession. Pardon.
Voilà. Absolument.
Et l'impôt sur la fortune également, pardon. Pas le revenu, mais l'impôt sur la fortune.
Absolument.
Tout à fait. Et donc, rappelez du dispositif en deux mots. Donc, c'est ça, on paye l'impôt grâce... Alors, en remplaçant par une œuvre.
Oui, enfin, c'est-à-dire que le contribuable qui possède une œuvre... qu'il considère comme importante et susceptible donc d'entrer dans le musée, propose cette œuvre avec une attribution qu'il considère comme la bonne et pour une somme qu'il considère aussi comme correspondant à la valeur sur le marché. Et il rédige une fiche, la transmet à l'administration des impôts et... ensuite, après examen, cette œuvre ou cet ensemble d'œuvres est proposée à l'examen de notre commission, qui donne une opinion à la fois sur la valeur patrimoniale. Est-ce que ces œuvres valent la peine pour notre patrimoine, vont enrichir notre patrimoine national d'une manière ou d'une autre, et est-ce que la valeur proposée correspond à la valeur du marché ? C'est très simple.
Est-ce que il y a des valeurs minimum ? Est-ce que ce sont uniquement des objets qui pourraient être classés trésors nationaux ou est-ce que ça peut être des œuvres qui ont une importance pour le patrimoine mais qui ne sont pas très chères ?
Il peut y avoir des œuvres qui ne sont pas très chères, mais qui sont quand même rares, précieuses et importantes pour le patrimoine national. Par exemple, à titre d'exemple, la première voiture électrique qui a été faite dans les années 40 et qui est maintenant au Musée des Arts et Métiers. C'était pas une œuvre d'un prix extraordinaire et néanmoins très importante. Donc, si vous voyez, il y a à la fois le patrimoine artistique, mais aussi historique, et les œuvres d'art font partie des patrimoines historiques, artistiques, et les œuvres scientifiques plutôt du patrimoine historique.
Alors, est-ce que le ministère du budget, comment il intervient ? Est-ce qu'il vous brise ? Est-ce que de temps en temps, il dit non ? Ça, c'est peut-être très intéressant. Mais on préfère avoir de l'argent.
Non, moi je pense que ce qui est important dans cette commission, c'est que il y a toujours eu un débat, mais que c'était un débat éclairé, si j'ose dire. Et en particulier, vous posez la question des œuvres de qualité. Il est évident que pour les tableaux, par exemple, à part exception, encore une fois, nous souhaitons quand même que ces œuvres soient du niveau des trésors nationaux. C'est ce qui nous intéresse de loin.
Et jamais on vous a dit non.
Pardon ?
Le ministère de l'Intérieur.
Ah non, je dirais au contraire, plus les œuvres sont importantes et plus elles sont rares et de qualité et par des artistes des plus grands noms, au contraire, plus elles sont faciles, si j'ose dire, à faire passer.
Quelle est l'œuvre la plus importante pour vous ? La plus importante ou... Peut-être pas la plus importante, mais la qui vous a le plus marqué dans toute...
Il y a eu deux grandes dations, si je veux. Il y a celle d'Edmond Rothschild et l'ensemble des œuvres...
C'est le Vermeer de chez lui ou c'est...
Là, il y a eu un Vermeer, c'était aussi Rothschild, mais pas Edmond,
d'accord.
C'est d'avant.
Et
c'est...
qu'est-ce qu'il y avait dans chez Edmond Rothschild ?
Il y avait beaucoup de ces meubles en porcelaine qui se trouvent actuellement... présenté au département des objets d'art. Il y avait aussi un très beau Jean-François de Troyes, des quantités de dessins, et surtout cet ensemble de meubles et la commode de la Dubarry. Ça, c'était tout à fait à mon début, c'était quand même un ensemble exceptionnel. Si vous voulez. Il y a rarement des dations de cette importance. Il y a eu aussi... la deuxième dation Picasso qui était très importante Et pour vous paraître un petit peu paradoxal, la datation John Mitchell. Je ne sais pas si vous appréciez cet artiste.
Je ne déteste pas, ça sort de mon champ. Si vous voulez. Donc, on se rappelle un peu Monet.
Vous posez la question, voilà. Donc pour moi, c'était aussi un très grand moment, et ce qui permet à cette artiste américaine qui a travaillé en France, d'être représenté dans un certain nombre de musées. Je dis ça à titre d'exemple, mais il y a le mur de Marcel Duchamp aussi, un ensemble extraordinaire qui est actuellement au musée d'art moderne.
Est-ce que la commission vous-même avez, de temps en temps, est-ce que vous attendez qu'on vous propose des actions
J'ai fait une erreur, c'est de Breton, le mur.
Le mur de Breton, oui, oui. Effectivement, tout d'un coup, je j'aurais dû rectifier, mais,
non,
bon,
mais c'est moi qui arrive.
Le mur de Breton qu'on a vu dans une exposition il n'y a pas très longtemps.
Oui, qui a été repris.
C'était dans l'exposition surréalisme, je crois,
c'est possible,
Laurent Lebon, je crois. Si je ne me trompe pas, j'espère que nos cerveaux respectifs fonctionnent encore. Est-ce qu'il vous arrive de solliciter des dations? C'est-à-dire que, il peut y avoir des gens qui héritent de choses, d'œuvres d'art et qui ont à payer, qui ne savent pas qu'il y a des dations, la possibilité de dations. Est-ce que les gens le savent suffisamment, ou est-ce que ça arrive de solliciter?
Non, c'est pas tellement solliciter, mais c'est en débat, c'est en discuter.
De le proposer, en tout cas, de le suggérer.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de la responsabilité du président, c'est de prendre contact avec les personnes qui sont susceptibles de faire une dation exceptionnelle, de présenter des œuvres qui, une fois sur le marché, risquent de quitter la France. Donc, c'est d'ailleurs vraiment ça le but de la commission, c'est de conserver des œuvres. Et entre autres, des collectionneurs, de susciter une dation de leur vivant. C'est-à-dire, non pas de payer des droits de succession, mais éventuellement de susciter une donation en partage ou une donation entre vifs.
Oui, ça marche aussi.
C'est ce qui s'est passé avec Edmond Rothschild. D'accord. C'est-à-dire que lui-même a participé à la mise en place de cette nation.
Il a gardé l'usufruit ou pas du tout?
Pardon?
Ils ont gardé l'usufruit?
Non, l'usufruit n'existe pas. D'accord. Vous payez en donnant les œuvres. C'est...
Une autre chose, vous souhaitiez parler du C2RMF, je crois, à propos d'une occasion perdue.
Non, mais ça, c'était un petit peu le prolongement de la réflexion que nous avons sur les relations entre l'art et la science. Je pense qu'il y a insuffisamment de contacts entre les historiens de l'art, le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche. Le C2RMF pouvait être un exemple de cette interface. J'ai essayé, par exemple, de suggérer ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les sciences du cerveau et pour la formation des restaurateurs, ce qui me paraît tout à fait indispensable. J'ai aussi beaucoup défendu le cas de Philippe Walter, qui a été médaillé d'argent du CNRS, qui est un des plus grands chimistes que l'on connaisse dans le domaine et qui a une très grande réputation, mais il a quitté. Donc,
il a quitté pourquoi? Parce que je ne connais pas forcément.
Parce que je pense que, d'une manière générale, si vous voulez, la direction de cette institution, les relations avec le Louvre n'étaient pas idéales, n'étaient pas ce qu'elles pourraient être. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces espèces de blocages disciplinaires. Vous voyez, quand on est dans la culture, on n'est pas dans la science. Quand on est dans la science, on n'est pas dans la culture. Et quand il s'agit de créer des interfaces constructives, il n'y a guère que ceux qui font la recherche qui le comprennent. Les administratifs sont très loin de tout ça. Donc, pour moi, je souhaitais beaucoup qu'il puisse y avoir, et c'est, je dirais, un projet pour le futur, un développement de cette recherche. Alors, Philippe Walter le fait à l'extérieur du C2RMF, mais ça n'empêche pas du tout qu'il puisse y avoir un renouveau de cette recherche, alors que les talents sont là. Si vous voulez, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que nous avons en France des talents partout, dans toutes les disciplines. Et je pense qu'ils sont très souvent sous-estimés, sous-employés et sous-considérés.
Donc certains s'en vont.
Beaucoup s'en vont. C'est pas certain.
Oui, c'est
hélas.
Ça qui est dramatique.
Hélas.
Livre.
quelques livres reçus chez l'éditeur presse universitaire de Rennes, dont on ne sait pas comment il arrive à produire autant de choses intéressantes, de Sophie Schwalberg, Le modèle grec dans l'art français, 1815-1914. Donc, c'est, en fait, l'art français n'est pas uniquement grec sous les néo-grecs, mais ça s'attache, ce livre s'attache en fait à parler de l'influence grecque de 1815 jusqu'à 1914, donc à l'aube de l'art déco. On voit que les néo-grecs, qui étaient récemment mis à l'honneur au musée de Nantes et au musée de Montauban, c'est plus large encore que les années 1845-1865 dont on parlait dans cette exposition, même si effectivement il existe un courant néo-grec à cette période. Le catalogue d'une exposition qui a lieu à Valence, en collaboration avec le musée du Louvre, donc ce sont les collections britanniques du musée du Louvre, donc qui ne manquent pas beaucoup à l'accrochage au Louvre, puisqu'il n'y a toujours pas d'endroit pour les montrer, ou quasiment pas, un petit peu dans le pavillon de Flore, je crois encore, mais malheureusement, les salles anglaises, on ne sait pas très bien quand ces peintures seront dispatchées, très joli mot, seront accrochées de manière satisfaisante. Nous avions abordé ce sujet avec M. Martinez, nous avait dit que dans sa réflexion, en tout cas, les peintures anglaises seraient accrochées au musée. On ne sait pas encore exactement où. Un numéro art sacré, en fait, c'est des actes d'un colloque. Reconstruire, restaurer, renouveler. La reconstruction des églises après les conflits religieux en France et en Europe. Donc, ce sont les actes d'un colloque. Ce colloque a eu lieu à Poitiers en 2011. Donc, voilà, c'est un très bel ouvrage. Dans la collection des cahiers de rencontres avec le patrimoine religieux. Nous mettrons bien sûr ces ouvrages dans notre rubrique ouvrages reçus. On parlait de Nantes tout à l'heure. À Nantes, j'ai publié avant-hier, je crois, un article sur la restauration des sculptures, la présentation des sculptures et des achats de sculptures à Nantes. Une autre exposition qui a lieu parallèlement sur Fernand Léger, une très belle exposition sur les liens de Fernand Léger avec le surréalisme, donc j'essaierai également d'en faire un petit article parce que c'est une belle exposition dans la chapelle. Et c'est la Société de l'Histoire de l'Art Français, une société extrêmement valeureuse qui publie des ouvrages. Celui-ci est très spécialisé, mais il intéressera forcément les spécialistes. C'est le meuble français à l'exposition universelle de 1878, demande d'admission et questionnaire rempli par les exposants dans la classe 17, meuble de luxe et à bon marché. Donc en fait, ce sont des archives qui sont publiées, mais des archives fondamentales pour la connaissance par les historiens du 19e siècle, les historiens du mobilier, la production française à cette époque, en 1878. Donc c'est une chose, à mon avis, importante à soutenir. Vous-même, vous vouliez parler, au point de vue livre, je vous demandais quel livre récent vous avez lu, vous parliez d'Artena. Donc parlons d'Artena.
Oui, je pense que
comme
c'est...
les auditeurs le savent, c'est un peu comme Anne Hidalgo, mais dans un sens positif, une de mes obsessions. Artena est une très bonne maison d'édition qui produit des livres.
Oui, d'ailleurs, j'ai fait partie des fondateurs, en quelque sorte.
Vous êtes d'accord,
oui,
ok.
Oui, tout à fait au début. Et je pense que grâce à beaucoup de bénévolat, entre autres de Christian Vol et des personnes qui accompagnent, cette entreprise publie des ouvrages vraiment de qualité exceptionnelle sur les très grands peintres, en particulier français, et du 17e, enfin du 16e au 19e et même au 20e, et un petit peu, enfin, je dirais 19e.
19e, oui.
Oui, je pensais justement aux peintures des églises françaises.
Le livre de Brouvoucart.
Oui, c'est ça.
Qui s'arrête en 1860.
C'est exactement. Je pense qu'il y a d'excellentes publications. La dernière qui est l'ouvrage de François Cuzin, que vous avez vous-même mentionné. Jean-Pierre Cuisin, excusez-moi, et sur Vincent, qui était absolument un chef-d'œuvre, et d'autres, comme Lutherbourg ou bien d'autres, qui sont à la fois, je dirais, très précieux sur le plan de la documentation, mais aussi, je pense, pour un lecteur qui n'est pas nécessairement spécialiste, qui donne une vision de l'évolution d'un artiste. Oui, je trouve que là, encore une fois, je suis scientifique, je vois comment se développe une œuvre, comment elle germe, comment elle se diversifie, comment elle évolue. Je pense que ces monographies sont extrêmement instructif pour nous, pour vraiment comprendre comment fonctionne un artiste, et pas simplement comme témoignage d'une histoire de l'art définie. Donc c'est une entreprise que je recommande très vivement, et acheter les ouvrages Artena.
Et pour terminer, une ou deux expositions que vous auriez vues récemment et où vous voudriez envoyer de lecteurs, en dehors de Vincent, que je suppose vous avez...
J'ai vu...
Et terminé d'ailleurs.
Abu Dhabi.
Ah oui, vous faites partie d'ailleurs du...
J'ai fait partie.
Dit, vous avez fait partie du comité scientifique.
J'ai fait partie, oui, du comité scientifique.
d'un projet que je n'aime pas beaucoup, mais qui, malheureusement, il faut le faire, puisqu'on l'a signé, c'est mon opinion, c'est
oui,
ça.
Oui, ben, je crois qu'il...
Je n'ai pas été enthousiasmé par les achats, je dois vous dire. Je ne sais pas si vous y avez participé ou pas enthousiasmé. Certains sont plutôt beaux, mais il y en a certains qui sont beaux et qui... Peut-être certains faisaient partie du patrimoine. On parlait de la.
Oui, non, mais ça, je pense qu'il y a peut-être un conflit d'intérêt, hein, ça c'est sûr. Mais je trouve que quand même le choix est intéressant et témoigne quand même de l'excellence des conservateurs. Ben, je crois que.
Ah, ben alors là, on n'est pas tout à fait d'accord parce que je trouve que le choix justement témoigne plutôt d'une incapacité à acheter vraiment dans les meilleures conditions et le mieux. Par rapport à ça,
les meilleures conditions, j'en sais rien. Et je ne sais pas quels ont été les prix, ça c'est une autre affaire. Mais je trouve que pour moi, cet ensemble est intéressant. Et je le dis encore, de qualité. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver d'autres œuvres d'une manière aussi éclectique, parce que depuis les arts primitifs, l'époque ancienne, si vous voulez, jusqu'à l'art contemporain, jusqu'à Sy Tombly. Si vous voulez, si on compare les Sy Tombly de cette exposition à ceux qui sont sur le plafond, celui qui est sur le plafond du Louvre.
Médiocrité rare. Non, mais Sy Tombly, c'est pas l'artiste, que... mais pas la fin.
Mais les œuvres.
Vous savez d'ailleurs qu'il y a un lien quand même.
Les œuvres à Abu Dhabi sont pas mal. Sont quand même, je trouve très intéressant.
Elles sont plutôt bien par rapport effectivement au Sy Tombly Louvre, mais vous savez qu'il y a quand même un lien entre les deux, que ça fait partie d'un deal global, c'est-à-dire que ça, une manière de rémunérer Sy Tombly était d'acheter aussi pour Abu Dhabi. Ça a été révélé par Libération.
Que c'est Libération indépendamment de cet aspect-là des choses, ce sont des œuvres que je trouve. Intéressante, il y en a d'autres. Il y a un Laïr qui est.
Oui, mais justement, mais le Laïr.
Que j'aurais préféré voir sur les murs du Louvre.
Hein, ou ailleurs, et vous savez que ce qui est gênant, on déborde un petit peu, mais c'est pas grave, c'est qu'on nous dit que les musées français sont prévenus à chaque fois pour savoir si ça pouvait les intéresser. Le Laïr, aucun musée que j'ai contacté, les 5 musées importants de province que j'ai contactés, dont 2 auraient pu être intéressés par ce tableau, aucun n'a été contacté. Et c'est un tableau qui était peint pour Richelieu, si je ne me trompe pas. Donc on est parfaitement là dans le conflit d'intérêts complet. Même si ce tableau, effectivement, est beau.
C'est vrai. Je pense que...
Nous allons conclure donc sur ce « c'est vrai ». Merci en tout cas,
Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie.
Jean-Pierre Changé d'être venu avec nous. Donc nous interrompons pour l'été. La Tribune de l'Art, bien sûr, continue. Nous mettrons des articles au même rythme que d'habitude. Simplement, nous interrompons cette série d'émissions. Et nous recommencerons le 4 septembre avec comme invité un autre collectionneur, Louis-Antoine Pratt. Merci, et donc au 4 septembre.
C'est moi qui vous remercie.